Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Vous pensiez connaître la Normandie comme votre poche, mais avez-vous jamais entendu parler de Belleville-en-Auge dans le Calvados, de Rémilly-les-Marais dans la Manche, de Belfouré-en-Perche dans l'Orne? Sans doute pas, car toutes ces communes n'existaient pas avant le 1er janvier 2017. Elles ont vu le jour en début d'année, suite à la fusion de plusieurs localités. Depuis 2 ans, la Normandie connaît un nombre important de regroupements de mairies. La région est à la pointe d'un phénomène qui touche l'ensemble du territoire. Le nombre de communes en France a baissé de plus d'un millier depuis 2015. La France n'en compte plus, si l'on ose dire, que 35 498. Alors, les dernières réformes liées à l'organisation territoriale ont encourager cette tendance à base d'incitations financières. Unissez-vous et votre dotation ne sera pas diminuée. Mais la motivation n'est pas seulement pécuniaire. Les mairies voient dans leur regroupement une façon de peser davantage dans les intercommunalités. Un niveau de pouvoir assez mal connu en France et pourtant de plus en plus puissant. Alors les communes doivent-elles s'unir pour ne pas mourir? C'est la question que nous posons ce soir, alors que l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité reçoit ou recevait ce mercredi à la maison de la radio les candidats à la présidence de la République. Et parmi nos invités, 2 maires, justement, Jérôme Nury, bonsoir.
Bonsoir.
Maire Les Républicains de la commune Tinchebré-Bocage dans l'Orne. C'est une jeune commune qui est issue de la fusion début 2015 de 7 villages. Vous présidez la communauté de communes Domfront-Tinchebré et vous êtes un des animateurs du groupe de travail Communes Nouvelles à l'AMF, l'association des maires de France. Notre deuxième invité maire se trouve, lui, dans les locaux, dans les studios de France Bleu Alsace à Strasbourg. Il s'agit de Jean Vogel. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le maire de Salles, dans le Bas-Rhin, qui est une commune, si j'en crois Wikipédia, de 821 habitants. Commune qui fait partie d'une communauté de communes, celle de la vallée de la Bruche. Et vous êtes, paraît-il, en train d'écrire un livre où vous raconterez votre expérience de maire sur un quart de siècle. Et puis, troisième invité, Laurence Lemouzy, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de la rédaction de la revue Pouvoirs locaux et par ailleurs directrice scientifique de l'Institut de la gouvernance territoriale. Un mot sur cet institut ?
C'est un institut qui a été créé en 1986, qui s'intéressait aux questions de décentralisation et qui maintenant est centré sur les questions de gouvernance territoriale, ce qui en dit long sur les transformations de l'action publique territoriale d'un système vertical à un système beaucoup plus horizontal dont il sera sûrement question dans nos débats.
86, grande année pour la décentralisation. Alors, je le disais en ouverture de cette émission, Laurence Lemouzy, enfin je le disais pas exactement de cette manière, mais en tout cas en 2 ans, le nombre de communes en France a baissé de plus d'un millier. Elles étaient 36 658 au 1er janvier 2015, 35 498 au 1er janvier 2017. Est-ce qu'on peut parler d'un mouvement de concentration inédit dans l'histoire de l'organisation du territoire français?
Alors, si on parle chiffres, oui et non.
Quelques chiffres. C'est une réponse de Normand, comme va peut-être nous dire Jérôme Nury dans un instant.
Alors que je ne le suis pas. Mais 1971, on prend en repère, 1971, c'est une des premières lois, la loi Marcellin, qui incite à la fusion. Qu'est-ce qui se passe? En 40 ans, 1971-2010, vous avez 1068 communes qui disparaissent. 40 ans, 1068 communes. Là, il nous a fallu 2 ans pour que 1243 disparaissent. Donc de ce point de vue-là, effectivement, en 2 ans, il y a eu un certain nombre de communes qui... un solde net, si je puis dire, entre celles qui ont disparu et celles qui ont été créées, beaucoup plus important. Mais quand on regarde, par exemple, du côté de l'Europe, il n'en reste pas moins que pendant les 40 années où nous en avons perdu peu, d'autres États ont beaucoup avancé sur la question. L'Allemagne, 41% de ses communes ont été supprimées, le Royaume-Uni, 79%, l'Espagne, un peu moins, 12%. Donc on voit que il n'a reste pas moins que la France a toujours le nombre le plus important de communes en Europe et je crois qu'il y a presque autant de communes aux États-Unis qu'en France ou en France qu'aux États-Unis.
Donc les regroupements de communes, ça ne date pas d'hier, mais on va dire que le mouvement s'est accéléré à la faveur notamment de nouvelles dispositions législatives. Bah, la commune dont vous êtes le maire, Jérôme Nury, Tinchebré-Bocage, a quand même beaucoup participé à cette importante réduction sur les 2 dernières années, puisque vous avez fusionné 7 communes en une seule, ce qui veut dire qu'il y en a 6 qui ont disparu, enfin elles ont disparu de manière administrative.
Il y en a même 7 qui ont disparu.
Il y en a même 7.
Bah oui, puisqu'en fait il y en a une nouvelle qui est née.
Enfin, je voulais dire, voilà, si on fait le solde, on en enlève seulement, six. Est-ce que c'est un projet? Alors, il faut dire que ces regroupements de communes se sont faits sur la base du volontariat. Est-ce que c'est un projet qui était à l'étude depuis longtemps entre les différentes communes? Et pour quelles raisons, finalement, vous avez choisi de vous regrouper?
En fait, ce projet, il est arrivé relativement vite après les élections municipales en 2014. Quand l'État a commencé à dire qu'il allait nous baisser de manière assez importante les dotations de fonctionnement. Et donc, partant de là, on s'est dit, il faut allumer des contre-feux, parce qu'en milieu rural, si on veut continuer à agir, si on veut continuer à booster le territoire, il nous faut des moyens. Et donc, on s'est rassemblés, puis on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour allumer le contre-feu? Et celui que nous avons trouvé, c'était de dire, on peut se regrouper à plusieurs pour à la fois avoir une dotation qui ne bouge pas.
Oui, parce que sachant que l'État disait, si vous vous regroupez, la baisse de la dotation sera gelée pendant 3 ans.
En fait, c'est même le niveau est gelé. C'est-à-dire que comme vous êtes gelé pendant les 3 années où l'État fait baisser la dotation, vous conservez le niveau de dotation à vie. Donc c'est pour le coup beaucoup plus intéressant que les fameux 3 ans durant lesquels il y a le gel. Et donc partant de là, on s'est rassemblés. D'abord, on avait envisagé de faire ce regroupement à l'échelle de la communauté de communes. Et puis, on n'a pas réussi à ce que l'ensemble des communes puissent venir avec nous. Et donc on s'est rassemblés à 7. 7 communes qui étaient à la fois les plus motivées et qui étaient aussi les plus impactées par la baisse de la dotation. Et puis on s'est dit aussi, il ne faut pas y aller que pour l'argent, il faut y aller aussi parce qu'on en a envie, parce qu'on a des choses à faire ensemble. Et puis aussi parce que ça nous permet de peser sur un environnement institutionnel qui est quand même sacrément en train de bouger autour de nous. Donc ça aussi, c'était un élément assez essentiel dans notre démarche.
Jean Vogel, je rappelle donc que vous êtes à Strasbourg, vous êtes le maire de la commune de Salles dans le Bas-Rhin. Est-ce que les discussions qu'évoquait Jérôme Nury entre sa commune et les communes environnantes, vous les avez eues également avec les localités qui sont autour de Salles?
Voilà, alors je crois que ce qui est important peut-être de signaler, c'est qu'effectivement la Normandie est un peu atypique en France, puisqu'il y a énormément de communes qui sont engagées dans la région sur un regroupement. Et j'étais encore hier au téléphone avec Laurent Pien, le maire de Condé-sur-Vire, qui pour essayer de voir quelles étaient, pourquoi nous par exemple en Alsace c'était relativement faible, ou dans le Massif Vosgien, et qu'il y avait vraiment ce développement. Alors je pense qu'il y a quand même une chose à dire, c'est que la géographie joue énormément. Dans des communes de montagne, dans des vallées, souvent à des villages qui sont très isolés, dispersés, éloignés les uns des autres, le regroupement de communes est bien moins évident. Autre chose, c'est que Laurent Pien me disait, et ça je l'ai observé en Alsace, c'est que c'est souvent un bourg-centre qui fédère des petites communes autour. Et la troisième chose, donc ça c'est, faut aussi se retrouver dans ce cas-là, ce qui est pas toujours évident. Et puis la troisième chose, c'est souvent ce qu'on entend, et lui l'entendait également, c'est que la fusion de deux communes pauvres ne faisait pas une commune riche.
Mais pour autant, Jean Vogel, l'incitation financière qu'on a évoquée, est-ce qu'elle peut intéresser des communes justement qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent au moins avoir une stabilité? Alors certes, c'est sur 3 ans, mais dans ce monde très incertain, c'est déjà pas si mal. Ça n'a pas joué en tout cas dans un éventuel projet de regroupement de communes dans votre secteur?
Vous savez, l'expérience où on donne une carotte financière, ça tient un moment, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu dans le temps des fusions, mais il y a aussi eu des défusions de communes. Nous, sur notre communauté de communes, il y a eu des communes qui ont défusé. Elles avaient fusionné et puis elles sont revenues en arrière. Je vois à côté de chez moi 2 villages qui ont fusionné. Pour ces raisons financières, au niveau de la population, ça passe pas forcément très bien. Moi, je crois en des projets. S'il y a vraiment une communauté de projets, effectivement, ça fonctionne. Autrement, ça peut poser, à mon avis, des difficultés à terme, parce que il y a quand même quelque chose qu'on oublie trop, et ça, je fais un gros reproche à l'AMF de ne pas le dire. Il y a des inégalités énormes entre les communes. Et un des problèmes de fond, c'est peut-être pas forcément la fusion des communes, mais c'est peut-être aussi corriger les inégalités énormes qui existent entre les communes.
Jérôme Nury.
Oui, non, mais moi, je suis bien d'accord pour dire que l'élément financier n'est pas l'élément majeur. Mais à un moment donné, c'est finalement ce qui va permettre de déclencher la discussion. Et derrière, d'engager une vraie réflexion aussi sur qu'est-ce qu'ensemble nous allons pouvoir faire et amener pour dynamiser le territoire. Et donc, envisager tout un projet de nouveaux services pour la population. Et pour le coup, nous avons les moyens parce que en s'associant à CET, non seulement nous avons une dotation qui est supérieure, donc elle n'est même pas maintenue, elle est supérieure. Mais en plus de ça, nous générons des économies puisque nous gérons à 7 ce qu'auparavant nous gérions chacun de notre côté.
Vous l'évaluez à combien l'économie là, que vous avez faite avec cette fusion ?
En fait, sur nos charges de fonctionnement, on peut évaluer à peu près à 10 à 15% de gains par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Sur des choses toutes bêtes, mais quand vous lancez un contrat d'assurance pour la collectivité seule sur une commune de 5300 habitants, vous avez des tarifs bien différents que quand vous le lancez pour une commune de 100, une commune de 150 à côté, une commune de 1800. Donc on voit bien que ça entraîne aussi des gains en fonctionnement que l'on peut remettre dans de l'investissement et qui sont, où c'est du gagnant-gagnant à la fois pour les usagers, pour le contribuable et pour chacun des territoires.
Laurence Lamouzy.
Oui, il y a ce type de gain immédiat, mais il y a aussi le gain à venir, c'est-à-dire qu'en s'unissant, on va peser plus dans un système intercommunal. C'est-à-dire qu'au sein de l'intercommunalité, on ne sera pas une petite commune parmi beaucoup d'autres, mais une commune nouvelle avec une certaine dimension, un nombre d'habitants qu'on va représenter qui sera plus important, et donc plus de poids sur l'influence que l'on peut avoir sur les décisions structurantes qui sont lancées par l'intercommunalité.
Oui, parce que cet environnement institutionnel, quand même, depuis quelques années, il bouge énormément. Il y a encore 20 ans, nos communes à 2000 habitants, 500 habitants pesaient dans leur environnement immédiat. Sur une communauté de communes à taille humaine, c'est-à-dire un bassin de vie à 5000 habitants, il n'y avait pas de problème. Depuis, la loi NOTRe est arrivée, nous avons des intercos qui sont immenses, et donc si vous arrivez avec seulement une commune qui a 150, 500 habitants, vous aurez bien du mal à vous faire entendre. Et de manière beaucoup plus vaste, le regroupement des régions. Nous, aujourd'hui, on est dans une Normandie qui est réunifiée et qui fait que, aussi, pour exister, il faut que nos communes pèsent un peu plus pour pouvoir parler avec le président de région, parler avec le préfet de région. Donc, on a intérêt aussi, finalement, à se regrouper, me semble-t-il, pour, nous, territoires ruraux, exister encore demain dans cette espèce de métropolisation que l'on connaît sur le territoire.
Ah, justement, à ce titre-là, Jean Vogel, est-ce que vous n'avez pas peur que, à la faveur de cette très importante réorganisation du territoire et des niveaux de pouvoir, notamment au niveau local, vos communes, les communes de montagne ou de moyenne montagne telles que la vôtre à Salles dans le Bas-Rhin, pèsent de moins en moins et de moins en moins de voix au chapitre.
Alors, je crois qu'il y a deux choses importantes. Aujourd'hui, nos concitoyens sont traumatisés. En l'espace de 3 ans, on a supprimé les cantons, on a fait des régions qui parfois sont cohérentes, d'autres ne le sont absolument pas. On a fait des communautés de communes XXXL et compagnie à dimension où on se retrouve à 50, 100 ou 200 effectivement autour d'une table. Les gens ne se retrouvent plus. Et là, il y a un gros problème, c'est le problème de subsidiarité. Parce qu'on peut unir tout ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, le développement local, c'est de partir du bas vers le haut, et ça correspond à des notions de proximité, de réactivité et d'efficience.
Alors, il faut rappeler d'un mot ce que c'est que le principe de subsidiarité, justement appliqué aux collectivités locales et notamment aux communes.
Voilà. Alors, si vous voulez, une commune ou une collectivité locale, elle exerce différentes compétences. Et on essaye de rendre ces compétences, un rapport coût-efficacité, les meilleures possibles. Mais il y a des échelles où c'est une compétence. Par exemple, si vous raisonnez au niveau économique, c'est sûr que vous pouvez raisonner au niveau d'un bassin d'emploi de quelques dizaines de milliers d'habitants. Mais quand vous commencez à réfléchir sur certains problèmes sociaux, etc., il faut que vous soyez quoi à une échelle de 500 ou 1000 habitants. Et donc, si vous voulez, pour le moment, on reçoit des réformes du haut vers le bas. Mais on n'a jamais mis les commune autour d'une table en disant telle compétence avec l'appui de géographes, de sociologues, pour essayer de construire véritablement quelque chose. On ne fait que subir ce qui vient du haut vers le bas. Alors, il y a des fois ça fonctionne, et puis je suis désolé, mais il y a des fois ça ne fonctionne pas du tout.
Et ça, ça met en avant ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, Jean Vogel, c'est-à-dire cette inégalité qu'il peut y avoir entre les territoires et qui explique, Laurence Lemouzy, pourquoi on retrouve peut-être davantage ces fusions de communes qui se font quand même, rappelons-le, hein, sur la base du volontariat, davantage dans certaines régions qui ont peut-être, comment dire, une topographie, disons, qui est plus à même d'organiser ces fusions.
Oui, mais au-delà de la géographie, il y a aussi les questions d'identité territoriale. C'est-à-dire qu'il y a, on le sait bien, des bassins géographiques, des territoires qui ont une culture du travailler ensemble, du faire société, de tisser des liens qui sont beaucoup plus fortes. Et c'est le cas notamment dans l'Ouest, le Maine-et-Loire, la Manche, de façon plus générale, l'Orne, la Normandie.
Vous voulez dire que l'identité, la culture du bassin est au moins aussi importante que l'identité culturelle qui serait liée à la commune ou au village?
C'est l'identité culturelle participe de cette volonté de faire des choses ensemble. Ça facilite. Dans des régions ou dans des départements où c'est beaucoup plus clivé, où les questions aussi de clivage idéologique sont peut-être plus affirmées, c'est plus difficile de faire sens autour d'un projet commun. On sait bien aussi le succès qu'a pu avoir la formule des pays dans ces territoires-là. Et ça participe, effectivement, ça crée un effet d'entraînement. Mais pour revenir à monsieur, sur la subsidiarité, c'est effectivement un principe forcément intéressant pour moderniser l'action publique. Le problème, c'est qu'en France, la France n'est pas un État fédéral. La France, la décentralisation, l'organisation des pouvoirs locaux, il est pensé par le centre. Il est pensé par l'État. Peut-être d'ailleurs qu'une des dimensions du succès du Commune Nouvelle, c'est que c'est pas forcément une loi très contraignante, c'est d'abord un cadre dans lequel les élus locaux ont pu agir, s'emparer, inventer et créer. Pour une fois, on avait là un outil, certes pensé par le centre, mais avec notamment l'appui de l'AMF et d'autres élus, qui a dynamisé ce faire société locale.
Alors justement, Jérôme Nury, comment est-ce que vous avez fait, enfin vous et l'ensemble des communes concernées, pour que Saint-Cornier-des-Landes, Fresnes, Beauchesne, Larchamps, Saint-Jean-des-Bois et Yverande acceptent de se fondre dans cette nouvelle commune, Tinchebray-Bocage. Est-ce qu'il a fallu discuter notamment sur ces questions d'identité culturelle, et est-ce qu'il a fallu, on va dire, répartir les pouvoirs entre les différentes anciennes communes pour que tout le monde y trouve à peu près son compte?
En fait, comme on vient de le dire, le texte sur les communes nouvelles nous donne finalement toute latitude pour inventer le modèle que l'on souhaite. Donc ça n'a pas été pollué par les différents législateurs dans le temps, ce qui fait que nous avons voulu construire un modèle d'une commune nouvelle qui conserve l'identité de ces communes déléguées, donc de ces villages d'origine. Ce qui fait que, par exemple, nous n'avons pas enlevé les panneaux à l'entrée des bourgs, il y a toujours marqué Saint-Cornier-des-Landes, Fresnes, etc. Ça veut dire aussi qu'on a conservé les conseils communaux dans toutes les communes. Ça veut dire aussi que les maires restent, en gros, les patrons chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de police, ils ont également l'état civil, et on leur a également délégué un budget que l'on a appelé un budget supra-analytique, qui fait qu'ils conservent aussi toujours des ressources que le conseil communal va voter, va accepter ou va rejeter.
Donc on voit bien. Vous n'avez pas changé grand-chose alors.
Mais en fait, si nous mettons ensemble, c'est un peu comme une coopérative, nous mettons ensemble les moyens et nous les redistribuons ensuite aux villages, aux communes déléguées. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui fonctionne parce que justement, nous ne mettons pas de côté les 200 ans d'histoire qui nous précèdent. Et moi qui suis historien, je me voyais pas, si vous voulez, rayer d'un coup de crayon, finalement, cette histoire qui nous précède. Et ça nous permet justement, en conservant cette identité, de conserver aussi cet esprit qui est dans chacun des villages.
Alors, je savais pas que vous étiez historien, mais puisque vous êtes historien, je voudrais vous faire écouter une archive de l'INA. Alors, c'est une histoire extrêmement récente, enfin février 1970. Reportage de Nord Actualité Télé. Ça se passe donc dans le Nord et il y a un projet de fusion entre les communes d'Ascq, Anappe et Flers avec un micro-trottoir.
Bon, madame, connaissez-vous Villeneuve en Flandre, s'il vous plaît?
Non, je connais pas ça.
Vous habitez où?
Ici, Anappe.
Villeneuve, comment vous m'avez dit?
Villeneuve en Flandre.
Non, monsieur.
Non, ne cherchez pas, Villeneuve en Flandre n'existe sur aucune carte. Ce sera une ville qui naîtra après la fusion d'Anap, Ascq et Flers. C'est à Anap que la mairie de Villeneuve sera implantée. On ne pense pas qu'il y aura des élections. Le nouveau maire sera l'un des trois maires des communes actuelles. Les deux autres seront adjoints d'office. Vendredi prochain, c'est-à-dire demain, les conseillers municipaux des trois villes seront réunis pour voter ce projet. Pourquoi cette fusion? Quels en seront les avantages? Autant de questions que nous poserons demain après le vote des conseillers municipaux. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus dans ces communes.
Connaissez-vous Villeneuve en Flandre, s'il vous plaît?
Oui.
Que pensez-vous de cette fusion?
Disons que c'est pas mal. Pour un monde moderne, c'est pas mal.
Oui, que pensez-vous de ce projet de fusion?
C'est bien, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si les impôts, les charges fiscales ne remontent pas, parce qu'en communauté, plus que c'est bien, plus que ça coûte cher, ce sera bien.
Bien, que pensez-vous de cette fusion?
Bah, je crois que ça va améliorer, moi.
Améliorer quoi?
Les trois villes réunies pourront mieux s'équiper que séparées.
Alors, reportage daté de 1970. Alors, je précise que Villeneuve en Flandre n'a jamais vu le jour sous ce nom, puisque c'est devenu Villeneuve d'Ascq. Laurence Lemouzy, les interrogations, les réactions qu'on entendait dans ce reportage, est-ce qu'on pourrait dire que c'est à peu près la même chose aujourd'hui par rapport à cette question des fusions de communes?
On pourrait dire que oui, le récit recommence, qu'il est éternel, comme beaucoup de questions sur dans le champ des pouvoirs locaux. À un moment donné, une des personnes interrogées dit « mais pour améliorer quoi ?» Moi, c'est un peu aussi la question que je me pose sur les communes nouvelles. Parce que si, d'ailleurs, le titre hein, « S'unir pour ne pas mourir », ça veut dire que certaines communes s'uniraient pour ne pas mourir. Donc, elles sont malades. De quelles communes parle-t-on? Probablement des communes rurales qui se sentent isolées. C'est-à-dire que est-ce que ça va véritablement changer leur développement social, leur développement économique, leur connexion aux villes moyennes et aux métropoles?
Alors, semble-t-il que c'est plutôt celles qui sont les plus isolées qui finalement ont le plus de mal, enfin en tout cas vont le moins vers ces regroupements?
Oui, mais pas uniquement quand même. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas être suffisant pour envisager un avenir fort et solide de ces communes. Il y a d'autres façons et d'autres façons peut-être de se regarder de la part de ces communes pour accélérer une meilleure santé.
Alors Jean Vogel, maire de Salles dans le Bas-Rhin, et Jérôme Niouri, maire de Tinchebray-Bocage dans quel département, rappelez-moi?
Dans l'Orne.
Dans l'Orne, veulent réagir Jean Vogel.
Oui, alors moi je partage tout à fait, c'est-à-dire que dans la ruralité profonde, la fusion des communes n'est absolument pas suffisante. Et je voudrais quand même réagir par rapport à ce qui a été dit dans la présentation, c'est qu'on nous compare souvent aux communes européennes, hein, allemandes, belges ou ailleurs. On dit mais les autres l'ont fait, pourquoi nous on le fait pas? Moi j'aurais tendance à dire c'est pas parce qu'ils l'ont fait qu'il faut systématiquement le faire. On a quand même deux choses extrêmement différentes. Et j'ai fait partie pendant plusieurs années d'un projet Interreg donc européen avec les communes allemandes de la Forêt-Noire. Donc on a travaillé ensemble et je dois vous dire que en fait la on a quelque chose de spécial en France et peut-être dans les pays latins, c'est que par exemple, il y a un mot qui est intraductible en anglais, c'est le mot terroir. Et on a quand même cette spécificité d'avoir des terroirs qui collent à des espaces géographiques précis où les petites communes ont un rôle clé. Je veux dire, il y a énormément d'AOC de produits de qualité en France, mais elles sont adossées à l'histoire, à cette culture des petites communes. Et je dis faisant très très attention, parce que ce qui s'est passé en Belgique ou en Allemagne, si on n'est pas capable vraiment de l'analyser dans le détail, déjà avec des densités de population très importantes, on risque là aussi de se tromper.
Jérôme Niouri.
Oui, non, mais moi je suis assez d'accord pour dire que nous devons veiller, quand nous partons sur une fusion, sur un regroupement au sein d'une commune nouvelle, à conserver justement cette identité sur les différents villages pour conserver aussi la vitalité qu'il y a dans ces communes déléguées. Vous savez, les conseillers municipaux, souvent, ce sont les premiers bénévoles du territoire. Ce sont eux qui font tourner le comité des fêtes. Ce sont eux, souvent, qui directement font les travaux dans la commune. Et donc, on a besoin de ces personnes engagées, qui sont souvent d'ailleurs un lien important entre les élus et avec la population. Donc, à nous aussi, je trouve, de bâtir des communes nouvelles que l'on souhaite et qui puissent, à l'avenir, permettre de conserver ce lien qui est important finalement entre les citoyens et l'institution, en conservant ces conseillers municipaux délégués, en conservant aussi cette vitalité sur chacune des communes déléguées.
Ça veut dire qu'il faut pas qu'elles aient une taille trop importante ?
Oui, sûrement, je pense qu'il faut partir notamment en milieu rural sur des communes nouvelles qui soient sur des bassins de vie très proches. Alors après, il faut l'adapter en fonction de la géographie, en fonction de l'histoire de chacun.
Sachant qu'en matière de gigantisme, enfin gigantisme n'est peut-être pas le terme le plus approprié, encore que là, alors on va passer justement à la question des intercommunalités. Il y a beaucoup de choses qui se passent également depuis quelques années, Laurence Lemouzy, et notamment de la même manière qu'on perd un certain nombre de communes du fait de fusions qui sont faites sur la base du volontariat, on perd aussi des intercommunalités, non pas parce qu'elles sont moins nombreuses, mais parce qu'elles sont de plus en plus importantes. Il y a des seuils qui avaient été fixés à 5000, c'est-à-dire une intercommunalité devait avoir au moins 5000 habitants. Et obligation de la loi, toutes les intercommunalités doivent avoir regroupé au moins 15 000 habitants. Pour quelle raison on est arrivé à ces effets de concentration si importants ? Est-ce que là aussi, il y a des considérations budgétaires qui sont derrière ?
Oui, on peut parler à ce sujet presque de gouvernance par les nombres. C'est le nombre qui guide nos réformes. Donc effectivement, un seuil à 15 000 habitants, ça veut dire que vous avez, y compris des structures intercommunales qui se sont transformées elles-mêmes en communes nouvelles pour à leur tour siéger dans des intercommunalités agrandies. Donc il y a des tailles, hein, c'est un effet ricochet, on a augmenté la taille des régions, on augmente la taille des intercommunalités.
Et puis ça s'est fait sur une période très courte.
Ça s'est fait sur une période très courte, avec en toile de fond, souvenez-vous, l'idée que peut-être, en élargissant ce qu'on appelle la maille communale, elle allait peut-être pouvoir prendre la place de la maille départementale. Et on allait aller vers un modèle qui nous semble être l'horizon du modèle européen. Je ne dis pas que je suis d'accord avec celui-là, mais sur une articulation région-intercommunalité. Donc l'idée, c'est d'agrandir la maille pour qu'elle soit suffisamment grande et qu'elle puisse se substituer, ce qui est loin d'être le cas, mais dans un horizon de quelques années, au département.
Il y a eu un rapport qui a été remis en janvier 2015 par le CGET, Commissariat Général à l'égalité des territoires, qui préconisait qu'on arrive, alors je ne sais pas à quel terme, à un nombre maximum d'un millier d'intercommunalités. Qu'est-ce que vous pensez de cet horizon-là, Jérôme Nury ?
Moi, ça me donne le sentiment qu'à un moment donné, l'État, le gouvernement, avec cette loi NOTRe, souhaite tuer le milieu rural. Parce que quand vous êtes dans une intercommunalité de 50 000 ou de 100 000 habitants, que vous êtes finalement très éloigné de la décision, que vous allez devoir siéger dans des intercos avec 50, 100 communes, sur des compétences à la fois stratégiques mais aussi de proximité, on se rend compte que le législateur a fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que si on était vraiment sur des intercommunalités qui soient que des intercommunalités stratèges, qui par exemple s'occupent de l'aménagement du territoire, vont s'occuper des déplacements, du transport, vont s'occuper du développement économique, à la limite ça pourrait s'entendre. Et on gère les compétences de proximité, soit sur des communes, soit sur des communes nouvelles. Mais là en plus, le législateur a dit, on va obliger ces intercommunalités à prendre des compétences de proximité. Alors, je pense à l'eau, à l'assainissement. On nous dit également que pour avoir des dotations d'un bon niveau, il faut aussi que ces intercommunalités prennent des compétences. Donc on est en train de forcer ces grandes intercos à prendre des compétences et on se dit, finalement, nous, en milieu rural, nous n'aurons plus aucune décision à prendre. Et donc, c'est là où je trouve que le système est très mal fait et vise, j'ai l'impression, à tuer le milieu rural.
Juste avant de repasser à Jean Vogel, Laurence Lemouzy, comment est-ce qu'on peut expliquer que, s'agissant des fusions de communes, le législateur ait laissé une grande liberté justement aux communes, et s'agissant des intercommunalités, là c'est quelque chose qui est très, très strict et très encadré.
Parce que certains pensent que l'intercommunalité c'est tout sauf de la décentralisation, c'est tout sauf de la liberté locale, c'est...
Ça serait quoi, de la recentralisation, c'est de une la sorte, reconcentration ?
Non, c'est une sorte de semi-décentralisation, c'est une sorte d'ailleurs aussi de semi-démocratie, puisque en tant que telle, ça lève l'impôt, les structures intercommunales lèvent beaucoup d'impôts, on sait qu'on les élit, mais avec un fléchage quand même assez indirect, il n'y a pas vraiment de débat politique qui se concentre sur les enjeux qui sont ces structures intercommunales.
C'est on ne sait façon... pas vraiment qui les préside en général.
On ne sait pas du tout, oui, ça nous échappe. Et puis c'est une façon d'aménager le territoire dans le consensus politique, sans trop de débats et avec une charge d'impôts quand même de plus en plus importante.
Jean Vogel.
Écoutez, je partage mot pour mot tout ce qu'il vient de dire, de la part aussi bien dans la bouche de Jérôme Mury que de Laurence Lamoury. Je voudrais juste rajouter, alors il y a quelque chose effectivement qui a été évoqué par Jérôme Mury, c'est dans la loi NOTRe, c'est le transfert rendu obligatoire de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités. Et dans la ruralité profonde, c'est très simple, puisque comme on dit maintenant, on va vers des intercommunalités énormes. Donc ça sera le prix de l'eau va être calqué sur le prix qui est celui de la ville phare. Et dans une très très grande partie de la ruralité française, ça va signifier deux choses. C'est que d'une part, l'eau ne sera plus gérée par les communes, donc c'est des dizaines de milliers d'emplois locaux qui vont disparaître. Et la deuxième chose, c'est que pour le consommateur dans la ruralité profonde, il va payer deux ou trois fois plus cher son eau, alors qu'il va déjà travailler, il se déplace, il fait déjà des fois 20, 30 ou 50 kilomètres pour aller travailler, et que souvent, ils payent, il faut le dire très clairement, plus d'impôts locaux que ne payent les habitants de la couronne parisienne.
Ce que vous dites, Jean Vogel, c'est une crainte que vous exprimez ou c'est un constat que vous faites, par exemple, sur votre communauté de communes, celle de la vallée de la Bruche?
Alors, si vous voulez, donc moi, je suis également membre du comité directeur des communes de montagne et je suis très investi justement à ce niveau-là pour qu'il y ait une loi qui revienne sur ce transfert, je dis bien obligatoire. Le problème, c'est toujours le problème de la centralité. On nous impose tout, on rend tout obligatoire, alors que peut-être que ça correspond effectivement à une réalité dans certaines choses, mais qu'on laisse les communes, les intercommunalités choisir.
Et peut-être
et qu'on
que justement
arrête de tout imposer du haut vers le
peut-être que justement, Jean Vogel, vous auriez intérêt à fusionner votre commune avec celles qui sont autour pour que ces propos-là aient davantage de poids dans l'intercommunalité.
Ben non, parce que justement, si vous, alors c'est malheureusement le drame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle répartition, clé de répartition des sièges dans les intercommunalités qui donne un bonus incroyable aux communes les plus peuplées. Je vous donne un exemple. Par exemple, notre commune a 800-850 habitants. J'ai un siège à la communauté de communes, alors qu'il y a 3 ans, j'en avais 2. Et les communes qui ont 3, 5 ou 6 000 habitants, ils ont un siège pour unité de 600 ou 650 habitants. Alors que toutes les petites communes, elles, ont un siège. Donc une commune de 50 habitants a un siège, moi 850, j'ai un siège, et des communes qui ont 2 ou 3 000 habitants ont potentiellement 30% de plus de sièges que moi. Donc c'est tous les bourgs intermédiaires qui malheureusement sont sacrifiés sur la nouvelle loi de l'intercommunalité.
Bon, Jérôme Nury, vous n'avez pas ce problème-là, oui, puisque vous présidez la communauté de communes.
Non, mais pour répondre effectivement à cette préoccupation légitime de la représentativité des communes au sein de l'intercommunalité, je veux juste signaler que l'Association des maires de France avait fait déposer un amendement dans la loi CIDO, qui est une loi qui est très récente, pour justement faire en sorte qu'au sein d'une intercommunalité, une commune nouvelle ait au moins un siège par commune déléguée. Ce qui fait que les communes nouvelles sont bien représentées au sein d'une intercommunalité, comme si finalement elles n'avaient pas fusionné. Donc ça, c'est un point positif. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport aux intercommunalités. Finalement, on a le sentiment aussi que l'État, le gouvernement, à un moment donné, s'est dit, on va faire de très grandes intercommunalités pour peut-être avoir des frais de structure un peu moindres. Et là-dessus, je veux dire très clairement que c'est un véritable leurre. Parce que plus vous avez de grosses infrastructures, et plus vous avez des coûts de fonctionnement qui sont élevés. Parce qu'il vous faut des directeurs adjoints, il faut plus de fonctionnaires, alors que sur des intercommunalités qui sont à taille humaine, donc sur des bassins de vie tels qu'on les avait pendant très longtemps, où on a fait aboutir des projets, où on arrivait à dynamiser le territoire, nous avions des frais de fonctionnement et des coûts de fonctionnement qui étaient moindres. Donc là aussi, je pense qu'il y a un véritable problème de la vision qu'en ont, en gros, les Parisiens, les élites parisiennes par rapport à ce qu'on fait sur le territoire. Je suis pas sûr du tout que le big is beautiful, au contraire.
Il y a eu une enquête récente des décodeurs du Monde sur le sujet qui dit ceci. Malgré l'effort de mutualisation des moyens communaux, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, donc qui accueillent ces intercommunalités, n'ont pas encore permis des économies d'échelle. Est-ce que vous partagez ce constat, Laurence Lemouzy? Est-ce qu'il faut s'arrêter sur n'ont pas encore permis, c'est-à-dire que ça va venir, ou bien est-ce qu'on est effectivement dans une addition de coûts et pas du tout dans une, comment dire, dans des économies budgétaires?
Je crains que les économies budgétaires ne soient pas très importantes au final, comme elles ne le seront pas non plus dans l'agrandissement des régions. Ça participe du même procédé. Quand vous prenez la région Grand Est, déjà le fait de devoir elle-même décentraliser ses propres services pour couvrir ce territoire immense est une démarche qui a un coût.
Alors l'argument budgétaire était quand même un de ceux qui était principalement avancé au moment de la
réforme. Plus vous agrandissez votre territoire et dans un contexte où vous avez tout de même une sorte d'imaginaire de la proximité, de l'authenticité, du fait qu'il faut être proche pour administrer, si vous devenez proche en étant grand, vous devez vous-même vous décentraliser. En fait, on est en train de reproduire des sortes de petites patries. Des petites patries où on va redécentraliser à l'échelle d'une région, puis à l'échelle d'un département, d'une échelle d'une intercommunalité. Et donc, vous remettez des strates à l'intérieur même d'un espace institutionnel. Et ça, c'est à la fois des millefeuilles territorialisés. On avait un grand millefeuille, maintenant on va avoir des millefeuilles territorialisées.
Jean Vogel ?
Ah ben, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Mais alors, attention, il faut quand même qu'on prenne nos responsabilités. Parce que dans moins d'un mois, il y a une élection à la présidence de la République. Et si malheureusement, ce que je ne souhaite absolument pas, le vote extrémiste remporte la majorité dans la ruralité, il ne faudra pas se poser la question pourquoi. La réponse, on l'a donnée durant cette émission.
Les candidats à la présidence de la République, ils étaient justement auditionnés aujourd'hui par l'Association des maires de France. Alors, je ne vais pas vous demander, vous êtes maire Les Républicains, je reviendrai donc j'imagine vers qui pourrait aller votre préférence. Mais enfin, en tout cas, est-ce que vous avez senti que dans cette campagne, la question des communes et notamment des communes rurales était suffisamment prise en compte ?
Oui, quand même. Alors, notamment de la part de candidats qui ont une expérience élective. Parce que dans les auditions que nous avons eues aujourd'hui, on a très clairement vu les candidats qui ont été maires, présidents de conseil général, qui ont été des élus locaux, qui comprennent en fait aussi comment fonctionne une communauté de communes, une commune, comment fonctionne la ruralité. On a bien vu aussi ceux qui n'ont jamais dépassé en gros le périphérique parisien, quoi. Là, c'était très très clair aujourd'hui. Donc voilà, après, il y a une petite chose moi qui m'embête dans cette émission, c'est le titre. Parce que je trouve qu'il est hyper négatif de dire « s'unir pour ne pas mourir ». Si vous voulez, je trouve que ça va à l'encontre de ce pourquoi chaque jour je me bats. L'union, c'est l'union pour continuer à agir, pour continuer à dynamiser, pour apporter des services supplémentaires. Et c'est ce qu'on essaye de faire, tous les élus locaux, les élus ruraux, chaque jour dans nos territoires, pour apporter un plus, pour s'occuper de la population, pour gagner en démographie, pour travailler sur l'emploi, pour travailler sur les services à la population. Donc on est plutôt sur du positif et pas sur quelque chose de négatif, parce que quand même la mort, c'est plutôt négatif.
Donc les communes doivent-elles s'unir pour continuer à agir ? Ça serait peut-être mieux, Laurence Lemoussi.
Oui. S'unir, c'est aussi, c'est pas que des instruments, des chiffres, des procédures. S'unir, c'est aussi peut-être un état d'esprit. Je suis pas toujours sûre que les pouvoirs locaux, notamment dans les communes rurales, on adopte souvent le discours quand même de la lamentation. Or, il y a des exemples qui prouvent que si on se regarde autrement et si on veut faire lien avec la ville moyenne, avec la ville métropolitaine, il y a de formidables réussites dans un territoire de montagne. À l'Hospitalet, près de l'Andorre, vous avez l'école qui devait fermer, le maire des associations, la société s'est mobilisée et ils ont renversé totalement la situation en se demandant ce qu'ils pouvaient apporter à l'urbain. C'est d'autres manières de penser qui, des fois, sont plus performantes que le recours aux instruments.
Jean Vogel ?
Écoutez, moi, je crois qu'il y a un mot-clé qui est le mot « développement ». Voilà, je crois qu'il faut qu'à la tête des communes, on ait tous effectivement une vision extrêmement positive et dynamique et qu'on soit des acteurs véritablement du développement de nos territoires. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit relayé, qu'on ait quand même quelques moyens pour le faire. Et malheureusement, on nous entend et on nous écoute de moins en moins d'en haut. Donc notre crise, c'est de dire, mais oui, entrons tous ensemble dans des logiques de développement. On a un problème en France énorme avec le chômage. On a des territoires qui ont des ressources incroyables au niveau humain. Laissez libérer ces énergies et soyez capables de nous accompagner. Et effectivement, que ceux qui se présentent, j'espère, auront entendu ce message.
Une toute dernière question, Jérôme Nury. Réponse courte, si vous pouvez. La commune de Tinchebray-Bocage existe donc depuis le 1er janvier 2015. Elle est le fruit de la fusion de 7 communes. Est-ce qu'il y a une clause dans votre accord qui permet à certaines communes de sortir, de type Brexit, par exemple ?
Non.
Ça n'est pas envisagé.
Après, la loi s'applique, donc une défusion est toujours possible, mais très très compliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de décisions qui soient prises au niveau même du gouvernement. Donc en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment pas possible. Mais je suis certain que nous n'en arriverons pas là, parce qu'aujourd'hui, les élus, mais également les habitants, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, les habitants aujourd'hui se sentent totalement partie prenante de ce projet et je crois sont heureux à Tinjeux-Bocage.
Merci beaucoup Jérôme Nury, Jean Vogel et Laurence Lemouzy d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Cyril Baer, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Frédéric. Demain, notre sujet autisme, trisomie, troubles psychiques, quelle place dans le monde du travail? Ce sera à partir de 18h20. Dans un instant, ping-pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Vos invités ce soir, bonsoir à tous les deux.